Ils ont une trentaine d'années, ils se sont rencontrés durant leurs études et après avoir visité la Nouvelle-Zélande, ils ont fait leurs premières armes dans le Bordelais. Marine s'est occupée de l'œnotourisme du château Larose-Monturon pendant 10 ans, tandis que Clément, après avoir rejoint le château Larcy-Ducasse, en est devenu le directeur technique. En 2021, Marine et Clément Baudon rachètent un domaine sur les coteaux de la montagne Saint-Émilion et y appliquent dès le début des pratiques biodynamiques. Ils incarnent aujourd'hui la relève du vignoble bordelais avec une philosophie, un savoir-faire et une certaine audace. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Vin Divin.
Merci.
Merci.
On va commencer par une dégustation. Vous nous avez ramené trois cuvées du domaine, qui sont, je crois, vos premières cuvées. Nous avons les terres brunes, les terres blanches et le Cabernet Sauvignon. Et donc, on démarre la dégustation par les terres brunes. Terres brunes, parce que j'imagine que le sol est brun.
C'est ça.
Voilà.
Donc, nous, l'histoire, en fait, des cuvées, c'est faite naturellement avec nos deux cuvées majeures qui sont les terres brunes et les terres blanches, avec les terres brunes qui sont un découpage de tous nos sols d'origine argileuse, et ensuite les terres blanches, là c'est un découpage de toutes les zones d'origine calcaire. Donc vraiment, les raisins sont sur les mêmes parcelles, c'est un découpage, étant donné qu'on vendange manuellement, on vient se faire exprimer chaque sol dans les cuvées.
Très bien. Donc là, on est sur du 100% Merlot, c'est ça?
Oui, alors on a quelques
98,
pieds
2,
de Cabernet Sauvignon, mais ça reste anecdotique.
Ouais, donc on est sur quelque chose quand même d'assez doux. Hein.
Oui. En fait, c'est le...
D'assez rond.
C'est notre philosophie, c'est de faire des vins qui sont très concentrés, avec des rendements assez faibles, en 25-30 hecto-hectares. Par contre, des extractions très très douces. Le but, c'est que dès les premières années, on prenne énormément de plaisir tout en se disant il y a du potentiel dans le vin. Et donc, c'est pour ça que, avec cette concentration, on a le potentiel d'un vin de garde. Mais par contre, on souhaite que ce soit très agréable, des tanins très raffinés dès le début.
On a une belle robe à un rubis. Et pour un Bordeaux, on pourrait dire que c'est quand même pas du tout boisé.
Non.
On s'y attache, ceci dit, à ce que ce ne soit pas boisé. Pour nous, la barrique, c'est pas fait pour boiser le vin et lui apporter du goût. C'est vraiment un plus, comment on pourrait dire ça
Un apport
d'oxygène, voilà, plus à ce niveau-là.
D'accord.
Et pas avoir le côté trop boisé. On a la chance d'avoir du fruit naturel dans les raisins, c'est dommage d'aller le masquer par du bois.
Très bien. Donc on passe à la deuxième cuvée, qui est donc le reflet des terres blanches.
Oui. Là, on est sur des sols calcaires, on est sur un vin qui est très identitaire. On a une bouche qui est particulière avec... alors déjà, si on commence par le nez, on a un nez beaucoup plus complexe que les terres brunes, limite truffé. Et par contre, en bouche, on a cette particularité qui est cette poudre, ce côté très poudré qui vient sur le côté de la langue, qui reflète parfaitement le terroir. Nous, c'est ce que l'on souhaitait. Et c'est pas évident dans le métier de vigneron quand on démarre une propriété. Nous, on a fait ce choix-là de faire exprimer les sols. Et on était très heureux de découvrir que tout ce découpage, cette sélection, elle se retrouve parfaitement dans les vins. Et au final, ça a fait découler toute l'histoire avec... de façon naturelle, même les étiquettes, l'écriture est à la couleur des sols, les cires, c'est des cires 100% végétales à la couleur des sols. C'est une clarté pour tout le monde quand il déguste les vins, il voit que le discours colle au sol, colle au vin, à l'aromatique.
Donc là, on a un peu plus de complexité quand même.
Oui. Ouais.
On sent que le vin est un petit peu plus complexe. Le nez est effectivement un petit peu plus riche aussi. Hein. Et en bouche, on a une belle finale. Donc l'élevage, pendant 10 à 12 mois, on a dit, dans des grands fûts, c'est ça, de 400 litres.
400 litres pour
60%.
60%, et ensuite des barriques de 225 litres.
Ah, dont 20% de bois neuf, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
D'accord. Et donc on a ensuite la dernière cuvée qui est votre petit bébé dont la commercialisation se fait cette année, c'est ça ?
Exactement. Oui. C'est aussi une cuvée qui est de 2021, du coup, sur nos Cabernet Sauvignon.
Donc 2 ans d'élevage, finalement.
Exactement. Ouais. Il y a 1 an en barrique, et après, il y a 1 an en bouteille dans notre chai à barrique. Dans notre chai à bouteille, plutôt.
D'accord, très bien. Ok, et pourquoi donc avoir fait ce 100% Cabernet Sauvignon ?
Alors, pour être tout à fait honnête, au départ, c'était un petit peu... Le tendon d'Achille de cette propriété, quand on est arrivé, parcelle plus basse que les autres, plus humide. On n'était pas dans un coteau comme toutes les autres. On s'est dit, autant aller jusqu'au bout et la mener différemment. Ce qui fait qu'on a fait le choix de la ramasser très très tard. Alors, c'est des très vieux pieds, c'est des rendements à 15 hecto-hectares.
Donc, des très vieux pieds, ça veut dire qu'on est sur des vignes de quoi ? De 40 ans et plus ou...
Ah, on est sur des vignes de un bon 60 ans.
Un bon 60 ans, voilà. D'accord. Okay.
Et donc, vendange très tardive. Par contre, on est sur... donc, l'idée de la vendange tardive sur ces Cabernet Sauvignon, c'est de quitter le monde du végétal du Cabernet Sauvignon, aller vraiment plus vers l'épicé. Par contre, on est sur une vinification en 8-10 jours, quasiment. Donc, on est en baie entière. C'est simplement, on mouille le chapeau juste une fois tous les deux jours.
Baie entière, mais vous éraflez quand même.
On érafle, mais baie entière sur cette cuvée. Le but est d'avoir un vin où on a toute la maturité côté épicé. Par contre, une douceur des tanins le plus possible. Avoir un profil complètement différent pour un 100% Cabernet Sauvignon sur la rive droite.
Ouais, très intéressant. On sent presque des notes un peu torréfiées, non ? Je me trompe ou pas ?
C'est drôle parce que cette cuvée, on a pris le parti de l'amener, on a l'étiquette depuis peu de temps. Du coup, on l'a menée un peu à l'aveugle pour les premières dégustations. Et on laissait les gens deviner pour savoir ce que c'était. On ne l'a jamais mis en Cabernet Sauvignon.
D'accord. Jamais. Et c'était quoi le retour des dégustateurs ?
Un côté très, comme on l'a dit, très épicé, mais en même temps, un côté accessible. Donc, ce contraste entre les deux qui plaît beaucoup et cette rondeur des tanins.
Oui, c'est vrai que pour un Cabernet Sauvignon en monocépage,
oui.
C'est bien, on sent que les tanins ont été bien travaillés. Ils ont été un peu patinés presque, hein.
Pour nous, c'est une micro, on va dire que c'est une micro cuvée. Ça représente 500, exactement, c'est 531 bouteilles. C'est la première d'une série où on a une autre cuvée qui arrive avec le plateau, avec un profil complètement différent. On sera vraiment sur un 100% Merlot, mais là sur un plateau argileux, 30 cm d'argile, et ensuite la roche mer calcaire. Avec des pH très bas, 3,18, des vins très élancés, complètement différents. Et puis ensuite, ce projet de cépage oublié, de cépage blanc oublié, avec pareil, une cuvée qui représentera 500 à 600
une
bouteilles.
Une cuvée de blanc, c'est ça, hein ?
Oui.
Donc, qui est en fait un petit peu le projet qui a porté votre demande de financement auprès de Winefunding, c'est ça, si je me souviens bien.
C'est notre premier projet qu'on a fait avec Winefunding, mais effectivement, c'est une parcelle qu'on avait au milieu des bois. Donc on a tout arraché, on a planté la parcelle en échalas, et on va intégrer des cépages blancs oubliés du sud-ouest.
D'accord. Donc là, voilà. C'est vraiment que des porte-greffes, où on va utiliser la greffe, une greffe ancienne. C'est une greffe en verre, donc on est vraiment... À ce jour, on est à l'étape de... On a terminé la sélection des cépages oubliés au conservatoire. Ils ont été prélevés.
Ils vont être greffés sur un pied américain.
Et voilà, ça sera greffé sur le porte-greffe. Le but étant d'avoir une cicatrisation parfaite, comme il se faisait il y a très longtemps.
Quels sont les cépages oubliés dont on parle ici ?
Donc les cépages oubliés, ce seront des cépages du sud-ouest, donc le Camaragué, la Muscadelle, le Mozac... Et puis du Crouchen, Loin de l'œil et Pruiras.
C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à monter votre propre domaine dans cette région ?
On s'amuse à dire ça, mais On prend beaucoup de décisions dans notre canapé. Et un vendredi soir, on discute dans le canapé. Et Clément me dit, et si c'était le moment de rechercher quelque chose ? On a dit OK. Le lendemain matin, il était sur Internet. Il trouve une annonce. Il s'en va faire le tour du village pour voir à qui ça appartenait. Et une semaine après, on faisait une proposition. Et 15 jours après, ça nous appartenait.
Super. Et donc, Clément, qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine quand vous l'avez visité ? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux tout de suite ?
Et en fait, c'est un domaine où il y a une grande richesse, une grande diversité. On est dans un secteur à montagne où il y a quand même une grande diversité. On a des bois, des vignes, des coteaux, des plateaux, des plaines.
On est sur une surface de 3 hectares et demi, c'est ça ?
Oui, on est sur un tout petit domaine. Mmh. Et c'est cette grande diversité au sein du domaine, avec des sols qui font l'histoire de nos cuvées déjà.
Mmh. Donc on a différents types de sols. Un écosystème qui est intéressant avec des arbres,
Il faut savoir que là, aujourd'hui, on a 3 hectares et demi de vignes, 2 hectares de bois, et on va arriver à 3 hectares de prairies. Donc pour nous, un équilibre important pour notre propriété.
D'accord. Et comment on finance ce type d'acquisition quand on démarre de rien finalement, enfin en tout cas quand on crée sa propre entreprise dans le domaine viticole, puisque le prix du mètre carré n'est pas donné, j'imagine, à Saint-Émilion.
Mais on va voir la banque. Non, mais c'est vrai, on va voir. On a, de par nos études et de par nos expériences, on a la chance d'être très complémentaires. Mm-hmm. Parce que tout à l'heure, Clément disait que lui, il était allé en BTS Vitioeno, et moi, je continuais plutôt de mon côté en BTS commerce et en licence onotourisme. Donc on avait toute la panoplie pour une propriété viticole. Donc déjà, quand ils nous ont vus arriver, ils voyaient qu'on était sérieux. Et puis après, on a fait des prévisionnels sur 8 ans, oui, peut-être. Et en étant cohérent, en disant effectivement que les premières années, il n'y a pas de vin qui se vend. Mm-hmm. Donc il n'y a pas d'entrée d'argent. Mm-hmm. Et finalement, le dossier est passé devant plusieurs commissions et ils nous ont suivis.
Alors, on revient au domaine. Vous arrivez donc en 2021, c'est ça ?
Oui.
Quand vous rachetez ce domaine. Quelle a été votre première décision ?
Ça a été d'incarner le métier de vigneron, à temps plein, en fait. Pour nous, c'était important de l'incarner jusqu'au bout, d'avoir choisi 3 hectares. Un objectif de 3 hectares et demi, c'est pas rien, c'est le choix de tout faire, que ce soit la vigne, au chai, dans notre communication, dans la commercialisation. On a fait le choix des circuits courts.
Je reviens à votre projet de cuvée de vin blanc. Pourquoi avoir décidé une conduite en échalas justement et à haute densité sur une surface qui est assez petite, hein, puisque c'est 15 arts, c'est ça, je crois. Pourquoi avoir choisi ce type de...
On est sur sur une parcelle qui est exposée plein ouest. C'est un microclimat, elle est entourée par des bois. On est vraiment en agroforesterie et ce microclimat, il est très chaud, ça respire peu. On a fait le choix d'être en échalas par rapport à la ventilation. On est sur un échalas en quinconce. Et c'est une parcelle qu'on travaille complètement différemment des autres. On est intégralement à cheval. Voilà, c'est une tenue du vignoble. D'accord. Qui est différente et qui nous intéressait beaucoup techniquement dans notre évolution des pratiques pour le futur.
D'accord. Et donc là, vous avez votre deuxième projet CoinFunding, c'est justement, ça porte sur l'acquisition de ce cheval, c'est ça ?
Exactement. Oui, là, aujourd'hui, on a envie de pousser plus loin et de... Alors, on ne va pas oublier les tracteurs, parce qu'on ne peut pas oublier un tracteur dans une propriété ou dans une exploitation agricole, mais c'est de faire un complément avec le cheval. Voilà. C'est passer tous les travaux de sol avec ce fameux cheval. On se forme pour pouvoir le conduire tout simplement correctement, parce que c'est pas si facile que ça. Et puis après, on attend qu'il arrive avec impatience.
On se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus d'initiatives aujourd'hui, dans le Bordelais notamment. On a vu Loïc Pesquel en Tirasse,
Jean-Baptiste Duquesne à Château-Casbonne, réintroduire des vieux cépages. Et en même temps, on voit que l'INAO autorise des nouveaux cépages sudistes comme le Touriga national. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire tout ça?
Ben, nous, en fait, il n'y a pas de modèle parfait dans la viticulture. Il y a mille façons de faire du vin. On le voit dans toutes les régions de France. Nous, on a fait le choix d'aller chercher dans notre patrimoine des cépages qui ont pu être écartés par leur manque de... Ils faisaient pas assez d'alcool, trop d'acidité. On a préféré piocher dans ce qui a déjà poussé dans notre secteur, plutôt que d'aller chercher des cépages d'ailleurs. On s'attache à notre patrimoine.
D'accord. Alors apparemment, vous connaissez déjà un certain succès, puisque vous avez déjà conquis les palais des sommeliers de Yannick Aleno à Saint-Émilion, Philippe Etchebest à Bordeaux, Livinesti à Kaisersberg et j'en passe. Vous êtes plus que des graines de star au Chablis.
On devient populaire.
Non. Non. Non, on a... En fait, on n'est pas néo-vigneron, mais on est néo-propriétaire.
D'accord.
On n'est pas forcément issu d'une famille du vin. On a baigné dans une région viticole.
Vous êtes tous les deux originaires de Bordeaux ?
Oui.
Oui.
D'accord.
Oui.
Mais en fait, on s'est pas fixé de barrières. Pas d'idées préconçues et on a tapé à la porte de sommelier et puis on en a d'autres qui ont tapé à notre porte et c'est ce qui a fait un peu cette réussite en même pas un an de commercialisation.
D'accord.
Parce que finalement le risque de taper à ses portes, c'est juste d'avoir un nom ou un oui.
Alors j'ai vu que sur votre compte Instagram, vous étiez allé récemment à l'Élysée, ce qui est quand même un exploit pour un domaine qui a démarré en 2021 finalement.
Oui. On a été à l'Élysée deux fois, une première fois au mois d'août pour rencontrer Virginie Routis, la sommelière de l'Élysée, et puis une deuxième fois au mois de novembre pour présenter le domaine lors de la soirée du Congrès des maires de France.
Alors comment on fait quand on est un domaine qui démarre pour avoir accès à l'Élysée? C'est quand même incroyable comme histoire.
Bien, on ose les choses. Un soir, on s'est dit pourquoi pas, et donc on a envoyé un mail à l'Élysée, un courrier qui transmet tout simplement notre histoire, la plus simplement possible. Et puis, pas forcément de retour, mais un appel avec quelqu'un à l'Élysée qui nous dit ben, votre projet il colle parfaitement au vin qu'on peut mettre en avant. Et je vous conseille de rappeler pour avoir la chef sommelière.
Et là, c'est là que la persévérance entre en jeu.
Voilà, une persévérance où
chaque jour, vous avez appelé pendant 41 jours, c'est
pendant
ça ?
41 jours, et puis simplement parce que la personne à l'accueil nous dit « Je pense vraiment que votre projet il est intéressant » et la sommelière est très peu derrière son téléphone. Donc ce qu'il faut, c'est simplement tomber
au bon moment.
Au bon moment.
Voilà.
Et puis elle avait lu notre mail, elle reçoit très peu de vignerons chaque année et elle nous avait mis dans la sélection des vignerons à recevoir.
Très bien. Et donc, vous avez fini par avoir ce rendez-vous téléphonique?
Rendez-vous téléphonique, puis rendez-vous à l'Élysée, et puis...
Vous avez rencontré le président?
Dégustation, et puis rendez-vous au Congrès des maires, où on a présenté le domaine et rencontré le président pour échanger sur l'histoire du domaine et ses vins.
Et le président, il a pu déguster vos
cuvées?
Oui,
maintenant, les vins sont dégustés en Conseil des ministres.
Très bien. Je ne savais pas qu'on buvait en Conseil des ministres, mais...
Alors, en déjeuner du Conseil des ministres.
D'accord. Comment vous voyez le domaine Bodon dans 10 ans ?
Alors déjà, il fera toujours la même taille, parce qu'on n'arrête pas de nous demander si on va s'agrandir. Ce n'est pas le but, parce que si on s'agrandit, on ne pourra plus gérer comme on gère aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous convient, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne à notre sens, c'est qu'on peut tout maîtriser. On peut maîtriser le travail à la vigne, le travail au chai, la commercialisation, la comptabilité. Demain, si on s'agrandit, on sera obligé de faire intervenir des personnes extérieures et on ne gérera plus tout. Et là, nous, ce qui nous convient, c'est de raconter notre histoire.
D'accord.
Donc, on sera toujours je pense, à la même taille. On aura notre cheval, j'espère, du coup, qui nous aura rejoint.
Et peut-être d'autres cuvées ou d'autres cépages ou d'autres essais.
Oui, on a toujours des idées de toute façon. Toujours des projets, toujours des idées.
Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, en fait, dans tout ce que vous faites au domaine?
C'est tout, en fait. C'est l'équilibre de tout, parce que... moi, au début, c'était vraiment la partie œnotourisme qui me plaisait, puisque j'ai fait ça pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, que ce soit notre propriété, notre domaine, eh bien, je prends autant de plaisir à aller tirer des bois, à réapprendre à tailler, puisque du coup, Clément me réapprend à tailler. Voilà, c'est tout finalement qui est plus satisfaisant quand ce sont
quand
nos vignes.
Quand on touche un peu à tout.
Exactement.
On est dans un domaine précis. Mm. D'accord.
C'est la joie d'être vigneron, c'est de... Autant le matin, on peut envoyer des mails pour répondre à des clients, que arriver et soutirer une barrique parce qu'elle en a besoin, et puis l'après-midi, être en train de tailler, et voilà, c'est de pouvoir tout faire.
Donc vous êtes des viticulteurs heureux.
Oui.
un petit peu, je dirais, à l'opposé de ce qu'on voit dans le monde agricole, puisque là, récemment, on a vu quand même qu'il y avait un mal-être important. Donc vous êtes un peu cette nouvelle génération qui met un peu de baume au cœur à la région, c'est ça?
Ouais, on prend du plaisir dans ce que l'on fait, et je crois que c'était ce qui était le plus important dans le début du projet. C'était de se faire plaisir et profiter de tout ça, et c'est bien si on peut en vivre.
Est-ce que vous avez, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, dont vous souhaiteriez parler?
Notre financement participatif lié à Winefunding par rapport à l'arrivée de Jupiter, un cheval au domaine, voilà. D'accord. Qui va nous permettre de financer l'acquisition du cheval, tout le matériel, notre moyen de transport et aussi toute notre formation.
D'accord. Il vous manque combien là, pour arriver à votre objectif à peu près?
Là, aujourd'hui, on est entre 8 et 9 000 euros et on espère aller chercher 20 000 euros.
D'accord. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées, il faut qu'elles se rendent sur le site Winefunding. Tout est expliqué. Et donc, on peut rentrer en termes d'investissement à partir de quel montant?
190 euros. 400 et 530. D'accord. Et c'est un remboursement intégral en vin qui permet d'accéder à nos cuvées.
Donc si moi j'investis aujourd'hui 530 euros dans ce projet, qu'est-ce que j'aurai en échange et pendant combien de temps?
Vous aurez des bouteilles du domaine, 6 bouteilles du domaine panachées pendant 3 ans.
D'accord.
Et l'invitation de venir nous rendre visite et de profiter d'un moment ensemble à déguster des vins à
D'accord,
la barrique.
Vous organiserez avec tous vos ambassadeurs une espèce de grand barbecue géant ou de partie dans votre domaine, c'est ça, pour un peu montrer la réalité de votre quotidien, c'est ça?
Oui et non, on a fait le choix de recevoir un petit peu individuellement et on a reçu beaucoup de nos winefooners au domaine.
Vous en avez combien d'ailleurs par rapport à la première opération? À la louche, hein, de manière très...
Une quarantaine,
d'accord. Et là, on avait un ticket d'investissement qui était un peu plus important, je crois.
Hein. Oui, on était sur une enveloppe de départ, un ticket d'entrée à 2000 euros.
Très bien. Bah, écoutez, merci d'être venu nous voir à Paris. Félicitations pour vos cuvées qui sont très belles. Et je vous souhaite très bonne continuation pour la suite. Puis je vous souhaite de trouver plein de cavistes qui distribueront vos cuvées en France et ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Pour plus d'informations sur le domaine Boudon et savoir où trouver leur cuvée, rendez-vous sur vindivin.fr. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous à Vin Divin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Ça aide pour remonter dans les classements. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Vin Divin. En attendant, portez-vous bien.